O altitudo divitiarum sapientiae scientiae Dei, quam incomprehensibilia sunt judicia eius et investigabiles viae eius. Ô abîme de la sagesse et de la science de Dieu, que ses desseins sont donc impénétrables et insondables ses voies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la Sainte Trinité, c'est l'adorable, mais aussi insondable mystère. Mystère surnaturel que nous a révélé notre Seigneur Jésus-Christ par sa prédication. Et avant d'aborder, tenter d'expliquer ce que peut être ce dogme, le plus grand dogme de notre sainte religion, il nous faut d'abord nous pencher sur ce qu'est un mystère. Qu'est-ce qu'un mystère surnaturel ? Un mystère surnaturel est une vérité inaccessible à notre intelligence laissée à elle-même, une vérité que nous ne pouvons ni découvrir, ni comprendre totalement, mais que nous devons croire parce que Dieu l'a révélée. Voilà ce qu'est un mystère surnaturel. Et tels sont les mystères de la très sainte Trinité, de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, de la rédemption, etc. Pour Dieu, bien sûr, rien n'est mystère. Pour l'homme, au contraire, tout est mystère, car il ne saisit la profondeur dernière d'aucune chose, et principalement de l'être divin. Dieu, surtout, est un mystère, et quel mystère ! Dieu, par son infinité, déborde de toutes parts notre pauvre intelligence qui essaie de l'étreindre. Il est mystérieux en sa nature, il est mystérieux en chacune des personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est mystérieux dans le rapport mutuel de ces personnes entre elles. Sa science, sa puissance, son éternité sont mystérieuses. Son œuvre elle-même, le monde, est mystérieux. À combien plus forte raison lui-même, ce qu'il est, sa nature ? L'existence de ces mystères ne doit pas nous surprendre. Et d'ailleurs, il ne s'ensuit pas que nous ne puissions connaître absolument rien sur ce mystère. En effet, nous pouvons d'abord savoir qu'ils existent, et ensuite avoir une certaine notion du contenu de ces mystères. Ainsi, pour le mystère de la très sainte Trinité, que nous fêtons aujourd'hui, quand nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule nature divine, personne, nous comprenons fort bien ce que cela signifie. Ce que nous ne comprenons pas, c'est comment cela se fait. Comment il peut y avoir trois personnes en une seule nature. C'est le pourquoi que nous ne comprenons pas. Ainsi, si le mystère est au-dessus de la raison, il ne lui est cependant pas contraire. Dieu ne saurait révéler et imposer à notre croyance des choses absurdes. Quand nous disons qu'il y a en Dieu trois personnes et une nature, il n'y a là rien de contradictoire. Nous ne disons pas trois personnes ne font qu'une personne, ce n'est pas possible, ni que trois dieux ne font qu'un dieu, ce serait absurde. D'ailleurs, à celui qui refuserait l'existence de vérité que notre raison ne peut découvrir par elle-même. On pourrait faire observer qu'il n'y a pas seulement des mystères dans l'ordre naturel, mais qu'il y en a aussi de très nombreux dans l'ordre naturel. Car même dans l'ordre naturel, il est vrai de dire que l'intelligence humaine, toujours courte par quelque endroit, selon le mot de Bossuet, baigne et ne cessera de baigner dans le mystère. L'infirmité de notre intelligence nous fait partout sentir ses limites. Nous sommes une énigme pour nous-mêmes. Que de choses dans la nature dont nous ne connaissons que l'existence, mais qui restent un mystère pour notre esprit, dont nous ne comprenons ni le pourquoi ni le comment. Telle par exemple la nature de la lumière. Est-ce une onde ou une particule ? L'attraction des masses. Pourquoi les masses Des planètes s'attirent-elles entre elles? Pourquoi? C'est un fait, nous le constatons. Mais pourquoi? Le mystère de la vie? Quel scientifique a jamais réussi et réussira jamais à donner la vie à une masse inerte? Nous ne savons le tout de rien, a dit Pascal avec raison. Or, si nous admettons qu'il y a dans la nature une foule de choses dont les plus savants ne comprennent ni le comment ni le pourquoi, mais sont seulement capables de décrire les phénomènes, à plus forte raison devons-nous admettre qu'il y a dans l'ordre surnaturel des choses très claires pour l'intelligence infinie de Dieu, mais insondables pour notre intelligence bornée et limitée. Saint Paul, d'ailleurs, nous avertit dans la première épître aux Corinthiens par ces paroles « Nul ne connaît les secrets de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. » Il ajoute un peu plus loin « L'Esprit scrute les profondeurs de Dieu et Dieu, par son Esprit, nous les révèle. » Aussi, devant les mystères de la religion, notre attitude doit être triple. Première attitude, une attitude de foi. Croire sans hésiter ce que Dieu nous a révélé, car il ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Premièrement. Deuxièmement, attitude d'effort intellectuel pour chercher à bien saisir les données du mystère, à défaut d'en tout comprendre, en saisir la signification, et aussi attitude morale, régler notre conduite d'après le contenu de ces mystères. Attitude de foi, attitude d'effort intellectuel et enfin, troisième attitude, attitude d'humilité, qui accepte sans récriminer de ne pas atteindre le fond des mystères révélés. Et là, nous touchons du doigt le problème du rationalisme, qui refuse de croire tout ce qui dépasse la raison humaine. C'est avant tout un problème d'orgueil, de refus de soumission à Dieu. Dieu est l'être tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, notre intelligence ne peut pas saisir ces mystères qui nous dépassent infiniment. C'est impossible, naturellement. Mais si Dieu nous les révèle, révèle leur existence, même si nous n'en saisissons pas le fond, la nature profonde, nous devons les croire. Avec humilité. Et ces attitudes de foi, d'effort intellectuel et d'humilité, il nous faut les apporter pour le mystère que nous célébrons aujourd'hui, ce mystère de la très sainte Trinité. C'est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est un esprit en trois personnes, c'est-à-dire qu'elles sont trois à être chacune le même esprit qui est Dieu, avec tous les attributs de la divinité, telle son éternité, son immensité, ou son immutabilité, etc. De ces trois personnes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père est celui qui, sans avoir de commencement, engendre le Fils et de qui procède le Saint-Esprit. Le Fils est celui qui est engendré par le Père et de qui, en même temps que du Père, procède le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est celui qui procède du Père et du Fils. Ces trois personnes ne sont pas distinctes de Dieu même, mais sont distinctes entre elles. C'est-à-dire que le Père n'est pas le Fils ni le Saint-Esprit. Le Fils n'est ni le Père ni le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Ces trois personnes ne peuvent être séparées l'une de l'autre. Elles sont ensemble de toute éternité. Ce ne sont pas trois dieux qui ont des relations entre eux, ce sont trois personnes qui s'identifient chacune au même Dieu et qui demeurent néanmoins pleinement distinctes entre elles. Ces trois personnes forment entre elles une véritable société, la plus parfaite des sociétés qui soient, parce qu'elles sont trois en qui est le même infini en perfection enduré, en science, en amour, en pouvoir, en félicité. Ainsi, unité de nature, trinité et distinction des personnes, égalité des personnes, tels sont les trois points de dogme de la Sainte Trinité. Si nous voulons maintenant saisir un peu mieux ce qu'est cette société entre les personnes divines, il nous faut nous pencher sur une des plus proches images ou empreintes de la Trinité dans l'ordre naturel. C'est saint Augustin qui nous donne l'image, et elle est très bien choisie. Saint Augustin nous dit que ce qui ressemble le plus ici-bas au plus proche de la Trinité, c'est l'esprit humain, l'âme humaine. On pourrait ajouter aussi l'esprit angélique, mais c'est plus compliqué. Les anges sont invisibles, alors que les hommes, nous les voyons et nous savons qu'ils ont une âme. Dans l'esprit humain, il y a deux opérations, la pensée et l'amour. Les hommes pensent et aiment. Et ça se passe dans leur esprit. Pour chacune de ces opérations, il y a un principe et un terme. Un principe de la pensée et un terme de la pensée, un principe de l'amour et un terme de l'amour. Saint Augustin applique cela en Dieu. Alors, si en nous ce sont des actes de pensée et d'amour, en Dieu ce sont juste des relations. Il y a une relation en Dieu de pensée. Avec un principe et un terme. Le Père a raison de principe, qui dit. Et le Verbe a raison de terme, qui est dit. Le Père dit et le Fils est dit. Pour l'amour, le Père et le Fils ont raison de principe commun à l'endroit du Saint-Esprit, qui lui, par rapport à eux, a raison de terme. Ce sont ces relations qui distinguent les trois personnes divines. Ce mystère nous révèle donc la vie intime de Dieu. Trois personnes distinctes uniquement par leur relation d'origine, selon l'acte de connaissance ou selon l'acte d'amour, mais qui sont identiques par leur nature. Il y a donc une vie intense de connaissance et d'amour en Dieu même, entre les personnes divines. Notre Dieu est un mystère de connaissance et d'amour. Connaissance de Dieu et amour de Dieu. Un jour, nous pourrons, si Dieu nous en fait la grâce, connaître en lui-même ce mystère et cette connaissance du mystère de la très sainte Trinité. Par la lumière de gloire, nous verrons clairement ce mystère. Sans le comprendre tout entier, il nous dépasse infiniment. Mais nous le verrons clairement, par notre intelligence, sans l'intermédiaire d'aucune idée. Et cette connaissance, par la lumière de gloire, attirera irrésistiblement notre volonté. Et c'est cela qui nous mettra dans le bonheur parfait. Un bonheur dont l'éternité ne sera pas assez, nous ne l'épuiserons jamais, ce bonheur. Il ne finira jamais. Il n'y aura jamais de satiété. Les saints qui, dans leur vie ici-bas, ont goûté un petit peu à ce bonheur du ciel, ont eu un avant-goût, un léger avant-goût de ce bonheur du ciel, ont tous témoigné après que toutes les joies d'ici-bas n'étaient rien en comparaison de cet avant-goût qu'ils avaient ressenti. Ces bonheurs de la terre n'étaient que de pâles figures de l'avant-goût qu'ils avaient goûté. Quelles seront les conséquences morales qui découlent pour nous de ce dogme de la Trinité? Le premier de nos devoirs envers la très sainte Trinité est l'hommage de notre respect et surtout de nos adorations. Nous devons adorer ce Dieu un et trine. La Sainte Trinité, c'est notre Dieu tout-puissant qui règne au ciel, que les anges et les saints adorent continuellement. Nous avons à la messe un écho de leur adoration, surtout au Sanctus. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Priis un celi et terra gloria tua. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Les cieux et la terre sont remplis de votre gloire. La piété catholique a d'ailleurs consacré comme marque d'adoration envers notre Dieu un et trine la prière du Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloire au Père éternel, principe de tout ce qui existe. Gloire au Fils, le Verbe éternel, consubstantiel et égal à son Père en toutes choses. Gloire au Saint-Esprit, qui procède éternellement du Père et du Fils. Aux trois personnes, nous devons rendre le même culte, les mêmes adorations. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Et il nous sera bon de répéter souvent cette prière. Il y a aussi les prières de Fatima. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, etc. L'ange à Fatima a voulu enseigner cet esprit d'adoration aux enfants. Il répétait les prières, la tête par terre, prosternée, pendant des heures. Ce respect de Dieu, cette adoration de Dieu. Et nous ferons bien de répéter cette prière du Gloria dans le même esprit, comme ces enfants à Fatima. Après l'hommage de nos adorations, vient l'hommage de notre amour et l'hommage de notre reconnaissance. C'est l'adorable Trinité qui a fait ce que nous sommes, qui nous a donné ce que nous avons. Le Père nous a créés, le Fils s'est fait homme pour nous racheter, le Saint-Esprit nous sanctifie en venant prendre possession de nos cœurs. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons été faits enfants de Dieu au baptême, que nous sommes réconciliés et purifiés de nos fautes au tribunal de la pénitence, que les prêtres nous donnent leur bénédiction. Et puis surtout, la très sainte Trinité daigne habiter dans nos âmes, comme dans son sanctuaire. Nous sommes les temples de la Trinité si nous sommes en état de grâce. Et puisque toute l'activité de la très sainte Trinité en elle-même est une activité de connaissance et d'amour entre les trois personnes, cette présence de la Trinité en nous, qui doit d'ailleurs grandir de plus en plus, doit nous pousser à connaître et à aimer Dieu de plus en plus, toujours davantage, en nous détachant de plus en plus des choses d'ici-bas. Et ce sera le plus noble emploi de notre vie, connaître et aimer Dieu. La très sainte Trinité, elle, n'a pas d'autre activité. Elle est l'exemplaire parfait de toute vie spirituelle, de toute vie intérieure. Tâchons donc de retracer en nous l'image de la Sainte Trinité, en nous efforçant d'être saints et parfaits comme Dieu, de lui plaire et de conformer notre volonté à la sienne, en conservant aussi entre nous cette même union qui existe entre les personnes de la Trinité. Si nous sommes en état de grâce, si nous vivons de la vie de Dieu, alors cette vie de Dieu doit nous pousser à être entre nous de plus en plus unis, par une véritable charité. Ce n'est pas possible autrement. C'est ça la vie de la grâce. Lors de la recommandation à Dieu de l'âme, d'un mourant, l'Église fait dire au prêtre ses prières. Licet enim peccaverit, tamen, patrem, et filium, et spiritum sanctum non negavit, sed credidit. Bien qu'il ait péché, il n'a cependant pas nié le Père et le Fils et le Saint-Esprit, mais il a cru. Demandons cette même grâce, et puisse la Trinité, par notre foi en elle, par notre adoration, notre amour, nous ouvrir les portes du ciel et nous introduire dans ce séjour de la félicité éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.